Il est 2h sur RCF.
Connaître le judaïsme, une émission présentée par Odile Riffaut.
Du 16 au 23 octobre, les Juifs célèbrent la fête de Soukhot. Mais quel est le sens de cette fête ? Rabbin Yeshaya d'Alsace, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rabbin de la communauté Massorti à Paris. Expliquez-nous quel est le sens de la fête de Soukhot. Déjà, que veut dire ce mot Soukhot ?
Ça veut dire les cabanes. Et c'est une fête alors, très intéressante. Et curieusement, qui n'est pas du tout reprise dans le christianisme. Vous avez repris Pâques. Pessah, vous avez repris Shavuot, la Pentecôte, mais vous n'avez pas repris Soukhot, ce qui me pose une question là, curieuse.
On va essayer de
Je ne sais pas si on va trouver la réponse, mais en tout cas on va essayer d'expliquer ce que c'est que Soukhot. C'est à l'automne, donc c'est le 15 du mois de Tichri, parce que le calendrier juif est différent, donc ça peut, c'est toujours au mois d'octobre, hein, grosso modo, mais ça peut osciller dans, là, un petit peu autour de diverses dates d'année en année. Et il s'agit en fait de clore à Soukhot l'année liturgique juive. L'année liturgique, elle commence avec Pessah, la fête de la liberté et du printemps.
C'est-à-dire puis elle, le peuple hébreu
sort d'Égypte,
c'est ça.
Elle se prolonge avec Shavuot, elle se prolonge ensuite à Rosh Hashanah et Kippour, qui sont en fait la fête du jugement puis du pardon, avec le jour de Kippour, qui est le jour du pardon, le grand pardon. Et puis, il y a Soukhot. Alors, Soukhot, c'est curieux. Ça dure une semaine. Ça se prolonge par une fête en plus qui s'appelle Simchat Torah, et qui a une espèce de huitième jour de clôture. Et puis, ça clôt ce cycle qui va se réouvrir à Pessah suivant, donc à la Pâque.
Quand on parle de temps liturgique, c'est par rapport à quoi ? C'est par rapport à la lecture de la Torah, c'est ça ?
Pas du tout. C'est par rapport à un cycle de fête qui a sa propre fonction. C'est-à-dire, en fait, on parle de la liberté avec Pessah, de la loi, donc de l'égalité, et ben on arrive à la fraternité avec Soukhot.
Donc Soukhot, c'est la fête de la fraternité.
Oui, entre autres. Et c'est la fraternité au sens où, mais c'est plus que ça, c'est au sens où, en fait, on a clos une année agricole dans le système agricole biblique, donc on est riche. Si on a réussi son année agricole, on va pouvoir passer l'hiver à faire moins travailler, à faire d'autres choses, et à préparer l'année agricole suivante. Mais on clôt quelque chose, on clôt un cycle. Et qu'est-ce pour marquer cette clôture ? Eh ben, on va aller habiter dans des soukhotes, dans des cabanes. Alors c'est très curieux, parce que, a priori, quand on s'est bien installé, on devrait rester chez soi, profiter de son intérieur et de ses granges et de ses placards bien remplis. Eh bien non, on fait l'inverse.
On installe des cabanes.
On installe une cabane, normalement, dans son jardin, et puis on va vivre dans cette cabane. On est censé y vivre totalement, dormir et manger. Alors, en général, on ne fait que manger. Dormir, on le fait aussi de temps en temps, si on a la place et si le temps le permet. Et donc cette cabane, elle a des règles très précises pour être construite. C'est pas n'importe comment. Donc c'est un cube qui reprend la dimension symbolique du cube qu'on retrouve dans le judaïsme à plein de reprises, que ce soit l'autel du temple, que ce soit le temple lui-même, que ce soit les phylactères qu'on porte sur la tête et autres. Donc c'est un cube, et le cube reprend dans l'espace la notion du temps shabbatique. C'est-à-dire que vous avez six dimensions, six directions, hein, et puis la septième dimension qui est le centre.
Et donc cette tente, encore aujourd'hui...
C'est pas une tente.
Cette cabane.
Non, mais je dis ça parce que votre lapsus est intéressant. C'est souvent traduit dans les Bibles par la fête des tentes.
Oui.
Ça n'a rien à voir avec une tente.
D'accord, oui, c'est
le traducteur
pas une tente de forme.
Oui, pas du tout. C'est une soukha avec des. Si c'était une tente, ce serait pas cachère du tout. Ce serait pas conforme.
Oui.
Donc ça peut pas être une tente. C'est forcément fait avec des feuillages. C'est forcément cubique et c'est fait avec des règles très précises par rapport à la pureté, l'impureté, la taille, etc.
Et concrètement, aujourd'hui, quand on est juif et qu'on habite, par exemple, dans un appartement, on fabrique chez soi une tente ? Comment on fait ?
Elle est forcément à l'air libre. C'est tout le problème des appartements.
Oui.
D'ailleurs, si vous voulez investir dans l'immobilier en Israël, sachez qu'un appartement qui a un balcon sans personne au-dessus, donc à ciel ouvert, ça vaut tout de suite, un peu plus cher.
Parce qu'il permet
dans d'installer les annonces immobilières, dessus. Sera marqué, voilà.
Il y a une expression, il y a un mot pour dire sous-cote compatible.
Voilà, exactement. Oui, ça se dira et ça augmente le prix d'immobilier. C'est un bon investissement. Donc, si vous avez la possibilité d'acheter un appartement avec un petit bout de terrasse, ça, n'hésitez pas.
Connaître le judaïsme, Odile Riffaut.
Rabbin Yeshaya d'Alsace, nous sommes en votre compagnie pour évoquer la fête de Soukhot. Alors, pour en revenir à l'origine de cette fête, si j'ai bien compris, il y a à la fois la dimension agricole liée au rythme des activités agricoles, mais il y a aussi la signification du peuple hébreu qui est dans le désert et qui dort dans une cabane.
Voilà, en fait, ça évoque, alors c'est ce qui est dit officiellement, c'est que c'est pour rappeler les soukhotes dans lesquelles nous séjournions dans le désert. On n'est jamais signalé dans le récit biblique qu'ils étaient dans des soukhotes. On ne parle pas de ça tellement, en fait. On ne sait pas où ils dormaient, et peut-être dans des tentes, mais ce n'est pas la question. En fait, ça rappelle, c'est une discussion qui est dans le Talmud, ça rappelle ce que les nuées de gloire qui protégeaient les Juifs.
C'est
la gloire divine, c'est-à-dire que la présence divine, la Shekhina, était là et protégeait le peuple juif.
Tout au long de l'Exode.
Tout au long de l'Exode, pendant 40 ans. Et donc, ça c'est le récit du désert. Mais c'est un récit où on est en quelque sorte hors de l'histoire. Dans le monde dans lequel nous vivons, maintenant que nous sommes sortis du désert et de ces nuées protectrices, eh bien, on vit dans un monde où on se protège soi-même. Le paradoxe, c'est que justement, pour fêter cette protection, on rentre dans la fragilité. Puisque la soukha, elle est fragile. La soukha, c'est pas une maison.
Oui, parce que la soukha, elle doit avoir un toit où on voit le ciel à travers les branches.
Oui, on entreaperçoit le ciel, oui.
Ça fait partie des règles.
Oui, tout à fait. Ouais. Si je fais un toit de chaume et de paix, ça marche pas. C'est donc là, on rappelle en fait la fragilité de la condition humaine. Au moment où on finit le cycle de fêtes juives, on rappelle le cycle de la fragilité humaine. Et d'ailleurs, on lit un texte, un des plus grands textes de la Bible, Kohelet, l'Ecclésiaste, qui nous rappelle à la fragilité humaine. Et à Soukhot, d'ailleurs, c'est très intéressant, on secoue un des aspects de Soukhot, on secoue un bouquet de plantes. Et ce bouquet de plantes, on ne le change pas.
C'est-à-dire
qu'au début de la fête, il est frais. À la fin de la fête, il commence un peu à se flétrir. Ça dépend des plantes, parce qu'il y en a qui tiennent plus que d'autres. Mais il y a notamment le saule, il tire un peu la gueule à la fin de la fête. Eh bien, oui, parce que ça vous rappelle un thème classique de la peinture qu'on appelle les vanités. Mm-hmm. Et nous lisons justement Kohelet, vanité des vanités,
tout est vanité.
C'est-à-dire que ça nous rappelle à ça. Ça nous rappelle aussi que les jours de l'automne commencent, il commence à faire frais, il peut même pleuvoir un peu, eh bien, c'est là où on sort dans des cabanes, justement. On sort pour goûter à la fragilité de la vie. Ça nous ramène sur Terre.
Quand vous disiez, il y a eu l'époque où Dieu protégeait son peuple de ses nuées protectrices, et après, l'homme se protège lui-même. En fait, il se protège lui-même, ça veut tout simplement dire qu'il ne sait pas se protéger, qu'il expérimente sa faiblesse.
Oui, tout à fait. Le judaïsme, c'est très philosophique. Donc c'est lié fondamentalement à cette idée d'accepter que nous sommes éphémères, que nous sommes fragiles, et que la condition de l'homme, il faut l'assumer, il faut la regarder en face.
Mais est-ce qu'il y a encore l'idée d'un Dieu protecteur ?
Bien sûr. Dieu...
Rassurez-nous.
Protège, oui. Mais enfin, on connaît aussi la fragilité de la protection divine. On l'a expérimenté, on peut en témoigner.
Pour en revenir au rite de la fête de Soukhot, donc il y a la cabane que l'on installe en extérieur, c'est très important.
Avec un toit plat, d'ailleurs.
Est-ce qu'il y a d'autres rites alimentaires ou des prières ?
Il y a des prières, toujours. Il y a tout un rituel que je ne vais pas vous détailler. Des rythmes alimentaires, pas vraiment. Mais il y a ce bouquet de plantes. Et puis, il y a surtout le fait de prendre ses repas dans la soukha. Et aujourd'hui... c'est vraiment dans toutes les communautés juives, on s'invite sous la soukha, on organise des repas sous la soukha. Les gens vont déplacer quelquefois de loin pour avoir l'occasion d'être dans la soukha, comme si c'était un lieu précieux, voyez, empreint d'une certaine sainteté en quelque sorte.
Et cette soukha, elle peut être suffisamment grande pour accueillir.
Ah, bah oui, elle peut être très grande même.
une centaine de personnes,
voire plus.
Pourquoi
pas, si on a la place et qu'on a les moyens de construire une très grande souka, ça existe, oui.
Et alors, vous concrètement, parce que vous êtes à Paris,
non,
vous
non,
avez pas de jardin.
J'ai une petite souka. Je vous invite une quinzaine à la rigueur, en se tassant un peu. Ouais.
D'accord, donc c'est très important d'être dans la souka. Est-ce qu'on y reste pour dormir ou juste pour...
Alors, il y a des gens qui y dorment. Bon, s'il ne fait pas trop froid, ça, il y a des gens qui y dorment, oui. Et vous avez un très bon film israélien qui parle de la fête de Sukkot, c'est Ushpizin.
Ushpizin, c'est
ouais,
un...
Oui, c'est un film qui se passe dans le milieu religieux pendant la fête de Sukkot, une comédie, et voilà, c'est, qui raconte toute cette fête. Bien sûr, c'est toujours une comédie. La vie est une comédie.
Est-ce que vous pouvez nous décrire l'état d'esprit dans lequel on est censé être au sortir de la fête de Sukkot? Est-ce qu'on est...
Joyeux. Vesamarta bechagecha, tu te réjouiras dans ta fête. C'est un verset biblique, c'est pas moi qui l'ai inventé.
Et pourtant, c'est une fête où, vous le disiez, on expérimente sa propre pauvreté.
Eh bien oui, ben ça c'est la propre de la, un philosophe. Il est heureux. Il est heureux de sa fragilité. C'est le propre de la philosophie, ben c'est le propre du judaïsme.
Et est-ce que ce bonheur-là, il n'est pas aussi lié à la convivialité? Parce que vous le disiez, il faut se réunir sur la dans la
oui,
souka.
Oui, mais ça c'est toute l'année. La convivialité. Non, c'est le plaisir, le simcha, d'assumer sa fragilité. C'est très profond.
Un grand merci, Rabbin Yeshaya d'Alsace, de nous avoir expliqué le sens de cette fête de Sukkot. Joyeuse fête à vous.
Soyez joyeux toute l'année, de toute façon. Toujours bon.
Rendez-vous dans quelques instants pour la prière monastique. Retrouvons à présent la prière du soir. Prions avec les bénédictines de Notre-Dame de Vénières en Saône-et-Loire.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. de la lettre aux Éphésiens. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés.
Dans la foi, nous t'en prions, Seigneur. Donne-nous la concorde et la paix, ainsi qu'à tous les habitants de la terre. Fais que par l'Esprit Saint, chaque famille humaine devienne un vrai sanctuaire de la vie et de l'amour. Accorde aux défunts le repos éternel.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ce que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen. Que règne en nos cœurs la paix du Christ, en qui nous formons un seul corps.
Amen.
C'était la prière du soir avec les bénédictines de Notre-Dame de Vénières.
Dans quelques instants, retrouvez La Bible nous parle avec Madeleine Vatel après ces quelques notes de musique.
Dans cette émission, nous nous approchons chaque semaine des livres qui constituent la Bible et plus précisément l'Ancien Testament. Avec des théologiens, des biblistes, des exégètes, nous cherchons à mieux comprendre les textes qui ont annoncé le Christ. Eh bien aujourd'hui, ce n'est pas une approche purement intellectuelle que nous allons vivre, mais c'est plutôt une façon d'ouvrir la Bible pour apprendre à prier avec elle. Et pour le faire, nous sommes avec un prêtre qui s'est passionné pour cette approche. C'est vous, frère Nicolas Sintobin. Bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes jésuite, auteur de plusieurs ouvrages, dont un petit manuel qui s'appelle « Apprendre à discerner ». C'est aux éditions Fidélité. Vous faites une pause à Paris, on vous remercie. On entendra votre accent que vous arrivez d'Amsterdam où vous êtes installé. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à cet ouvrage intitulé « Prier avec la Bible ». C'est aux éditions Jésuite. Nicolas Sintobin, la spiritualité ignatienne, elle invite à trouver Dieu dans toutes les dimensions de notre vie. Et est-ce que vous diriez que paradoxalement, on a presque oublié qu'on pouvait le trouver dans la Bible ?
Ce n'est pas évident, effectivement, de prier avec la Bible. Certains d'entre nous, catholiques, les protestants, ils lisent la Bible du matin au soir, pour ainsi dire. Nous autres catholiques, dans le meilleur des cas, on la lit de temps à autre, on l'écoute pendant la messe. Mais si on peut prier aussi avec la Bible. Et le grand apport que nous fait Saint Ignace, c'est de nous proposer une méthode de fait très simple pour écouter au plus profond de soi la parole de Dieu et, je dirais, entrer dans un dialogue intime de personne à personne avec Dieu, avec le Seigneur, Jésus en particulier, moyennant la parole de Dieu.
Mais vous-même, Père Nicolas Sintomine, vous vivez en communauté, vous sentez que vous avez à redécouvrir, vous aussi, que prier avec la Bible, c'est une dimension encore supplémentaire.
Je travaille beaucoup avec la Bible, mais prier avec la Bible, c'est autre chose. C'est autre chose. Je suis moi-même responsable pour la production en néerlandais d'un podcast de prière avec la Bible. En français, c'est l'équivalent de « Prie en chemin ». Tous les matins, je commence ma journée en priant de cette façon-là avec la Bible. Et je ne vais pas dire toujours, mais presque toujours, il y a quelque chose qui en ressort. Et quel bonheur de pouvoir, sur son âme, sa conscience, mon esprit encore tout vierge de n'importe quelle impression, au petit matin, d'écouter la parole de Dieu et d'entrer en rapport, en relation, la mâcher, l'écouter surtout, plutôt que d'écouter les nouvelles avec les meurtres, avec les guerres, avec les je sais pas quoi, et de commencer ainsi sa journée. Quelle merveille, quel privilège.
Un privilège qui est accessible à tout le monde. Vous diriez, mais pourtant il y a ce frein, parce que par exemple l'Ancien Testament, ce sont des textes qui parfois effraient, qui ne semblent pas accessibles. Ça peut faire peur, on s'arrête à l'image ou au souvenir qu'on a de ces textes. Est-ce que c'est juste ou cette approche de la Bible, d'entrer dans les textes, elle est aussi possible avec l'Ancien Testament?
Écoutez, il y a des textes de l'Apocalypse, de Saint Paul, Nouveau Testament, qui sont absolument indigestes pour la prière. Et il y a même tel ou tel extrait ou passage évangélique qui sont tellement arides ou compliqués ou incompréhensibles qu'ils se prêtent difficilement à la prière. La même chose vaut pour l'Ancien Testament. Il y a effectivement des textes juridiques à n'en pas finir qui sont... En tout cas, moi, j'arrive pas à prier avec ces textes-là.
Oui, le Lévitique, ce serait un peu compliqué.
Par exemple. Mais il y a d'autres textes qui s'y prêtent à merveille. Il y a les psaumes, par exemple. Il y a plein de passages d'Isaïe dans la Genèse. Moi, par exemple, j'aime beaucoup, et je l'ai fait encore récemment lors de ma retraite, prier avec la Genèse, la vocation, l'appel d'Abraham. Et c'est un texte que je trouve, moi je pourrais prier facilement une semaine de suite avec ce seul texte, parce qu'il évoque tant de choses sur le rapport entre la personne humaine et Dieu, que je peux, dans le bon sens du terme, m'y perdre à longueur de journée.
Ouais. Nicolas Sintobin, vous donnez 50 conseils pour se mettre en présence de Dieu à travers les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Pourquoi tant de conseils alors qu'on aurait envie de dire, et si on se mettait simplement à genoux en toute humilité avec Dieu?
Madeleine, si ça marche pour vous, je vous en prie, faites-le. Faites-le. Donc, là, dans ce livre, je propose une méthode. Il y en a d'autres. Et puis, de toute façon, c'est vrai, 50 conseils, ça peut paraître un peu énorme. C'est pas à prendre ou à laisser, c'est pas tout ou rien. Ce sont des suggestions. Et moi, je dirais, et c'est comme ça que je l'ai vécu moi-même, jeune homme étudiant, quand j'ai découvert ça, quel bonheur, quelle chance qu'il y a des maîtres à prier, des maîtres qui nous apprennent, qui nous partagent l'expérience un peu extraordinaire, comme Ignace de Loyola, qu'ils ont eu. Et il n'est pas nécessaire, comment est-ce qu'on dit, d'inventer l'eau tiède. Elle existe déjà. Enfin, je veux dire, l'eau chaude. Il y a des méthodes pour prier avec la Bible, tant qu'à faire et en profiter. Et la méthode d'Ignace est quand même une méthode qui a fait ses preuves.
Alors Ignace de Loyola, il vous a inspiré, c'est vraiment votre maître spirituel, on pourrait dire, en tout cas c'est celui qui vous inspire. Est-ce qu'il a lui-même proposé cette méthode, ou c'est vous, par l'observation de ses remarques, de ses analyses, de ses exercices spirituels, qui en avez écrit une méthode pour prier avec la Bible ?
Je pense que j'ai très peu inventé, moi-même. Le génie d'Ignace de Loyola a été d'avoir réussi à extraire de son expérience personnelle de prière avec la Bible, d'en extraire des dynamiques, des structures, des éléments dont il avait l'intuition qu'il pouvait aider d'autres personnes à prier à leur tour. Mmh. Ignace est un pédagogue né. Et il a réussi à partager cette expérience. Et le livre par excellence dans lequel il a couché cette expérience, ce sont les exercices spirituels de saint Ignace.
Alors, on entre dans ce que vous appelez l'école de Saint-Ignace de Loyola pour prier avec la Bible. On va avoir un petit côté très pratique. Y a des conditions dans lesquelles on est mieux pour prier ?
Mais absolument. Pour la simple raison que nous ne sommes pas des esprits purs. Nous avons un corps. Nous sommes dans la matière. Nous sommes dans le temps. Et donc, il est important de respecter cette corporéité. Ça veut dire, par exemple, que le lieu de la prière est important. Si je vais essayer d'entrer, de faire une contemplation d'un texte, la vocation d'Abraham de la Genèse, par exemple, si je le ferai dans une rame de métro, bon, peut-être que je vais y réussir, mais il y a plus de chances que je vais être distrait pour toutes sortes de raison. Le lieu est important. Les sons environnants, bon, ça va de pair. Mon corps, l'attitude de mon corps, il est important d'adopter une position, et si besoin en est, de la changer, une position dans laquelle votre corps est bien, sans que vous vous endormiez, mais sans que vous soyez trop tendu non plus, parce que c'est trop compliqué d'être dans cette attitude-là.
Donc on s'installe bien. Est-ce qu'il y a une durée exemple, votre application, elle propose 12-13 minutes. Au début, ça peut paraître très long. Finalement, après, on se dit, oh, je pourrais peut-être continuer sur un chapelet. La question de la durée, elle est importante ?
Elle est très importante, je crois. Et le critère le plus important que donne Ignace peut étonner. Il ne dit pas, il faut prier 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Il dit, c'est vous qui allez fixer la durée de votre prière, et surtout, vous allez respecter cette durée de la prière. Et si jamais il vous arrive, et je peux vous assurer que ça arrive, que la prière est aride, qu'on n'avait pas l'impression que rien n'en ressort, vous vous ennuyez, aucun problème, dit-il. Au lieu de raccourcir votre prière, vous allez rajouter 5 minutes. Mais autrement dit, donc il dit, vous fixez vous-même et vous respectez la durée, parce que sinon, il est trop évident qu'il y aura plein de distractions et de tentations pour arrêter la prière.
Il peut se passer quelque chose sur ces minutes qui sont sèches, où on a le sentiment que rien, absolument rien ne se joue, ni dans notre cœur, ni dans nos textes. Et pourtant, c'est bon de rester.
C'est bon de rester parce que vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer dans 1 minute ou dans 2 minutes ou dans 5 minutes. La prière n'est pas d'abord quelque chose que l'on produit soi-même, on accueille. C'est l'esprit, c'est en langage théologique, mais c'est l'esprit qui prie en nous. La seule chose que nous pouvons faire, c'est essayer de nous concentrer et de nous ouvrir à la présence de Dieu et écouter. Et puis on peut collaborer pour accueillir, on peut faire de son mieux, mais en dernier ressort, ça ne dépend pas de nous. Et pour cette raison-là aussi, il vaut mieux ne pas évaluer sa prière. 5 sur 10, 7 sur 10, 9 sur 10. La prière, c'est tout d'abord passer du temps avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans la prière? J'en sais rien. Il y a des choses dont on se rend compte. Il y a d'autres choses dont on ne se rend pas compte. Comme dans une relation avec une autre, nous croyons que Dieu est une personne. Comme avec des personnes humaines, le temps, enfin, il est souhaitable qu'avec des amis, avec la personne aimée, on passe du temps. La même chose vaut pour la prière et donc pour cette relation avec Dieu, avec le Seigneur.
Alors, vous parliez des conditions extérieures, pas trop de bruit. Bon, on comprend assez facilement. En revanche, qu'est-ce qu'on fait des distractions qui viennent, qui s'imposent à nous, des pensées, de choses et d'autres, parfois futiles, parfois importantes? Qu'est-ce qu'on fait de cela quand on avait résolument décidé d'ouvrir la Bible et de se plonger dans le texte?
Bon, déjà, il est souhaitable de préparer la prière et de préparer le texte pour que vous ne soyez pas distrait par le texte, qu'il n'y ait pas de mots, d'expressions que vous ne comprenez pas.
Ça veut dire qu'on fait une préparation
si possible
avant la prière.
Ça, c'est pas mal, oui. Si possible, s'il y a le temps. S'il n'y a pas le temps, tant pis. Deuxième chose, prier, ce n'est pas appuyer sur un bouton. Ce n'est pas appuyer sur le bouton prière. Quand je prie, quand on prie, il faut prendre le temps pour entrer dans la prière, pour que le silence s'installe en vous, pour que vous soyez présent dans la prière, non pas seulement avec votre corps, mais aussi avec votre esprit, et pour que vous essayiez de vous ouvrir à la présence de Dieu. Et il se peut que tout votre temps de prière passe par là. Aucun problème. Parce que ça n'a aucun intérêt de commencer à prier un texte si vous n'êtes pas là.
On se met trop de pression, il y a trop de pression sur le résultat quand on prie. Vous êtes en train de nous dire que c'est résolument gratuit.
C'est résolument gratuit. Et bien sûr, nous vivons dans une culture, dans une société qui veut des résultats immédiats. Immédiats, palpables.
Mais parce qu'on veut consacrer du temps avec l'idée que ce temps ne sera pas perdu. Or, vous nous dites qu'on ne sait pas, avec Dieu, ce qui est perdu et ce qui ne l'est pas.
On sait que ce n'est pas perdu. Ça, on le sait d'avance. Pour en revenir à votre question des distractions, je voudrais distinguer entre deux types de distractions, entre guillemets. Il y a des distractions pures. Je veux dire, si vous priez dans une rame de métro, bon, il est à peu près sûr que vous serez distrait par le bruit, par tout ce que vous voyez, par les mouvements, tout ça. Bon, probablement pas une bonne idée. Ou si vous priez avec la fenêtre grande ouverte et il y a des enfants qui jouent dehors, qui font un bruit, pas possible, pas une bonne idée. Ça, c'est des distractions qu'on peut évacuer, on peut s'organiser. Mais si, par exemple, vous êtes en train de prier un texte sur le pardon, et vous avez quand même une distraction, il y a votre sœur là, avec laquelle vous vivez un mauvais... avec laquelle vous vous êtes disputé depuis je ne sais pas combien de temps, et tout le temps elle vous regarde pendant ce temps de prière. Oh, c'est pénible, mec, le soleil, j'en veux pas. C'est peut-être pas une distraction. C'est peut-être une invitation pour que vous intégriez cette relation perturbée que vous avez avec votre sœur dans votre prière, et que vous essayez de la... et ainsi de suite, voilà, de donner ça. Donc, il y a des idées, des choses qui peuvent vous venir. Certaines, très clairement, nous empêchent d'entrer dans le silence, d'entrer dans une écoute, dans un rapport de vérité avec la parole de Dieu, avec Dieu lui-même. D'autres, justement, on peut parfaitement bien les intégrer dans la prière, et elles vont au contraire rendre notre prière plus authentique.
Père Nicolas Sindobine, qu'est-ce que vous faites du réfrigérateur?
Je parle effectivement du principe du réfrigérateur. Bon, je reprends la sœur, là, avec laquelle je me suis embrouillé, et c'est une situation impossible, il n'y a pas de solution. Enfin, en tout cas, je ne la vois pas. Mais c'est devenu une obsession. Et du matin au soir, dès que j'ai un moment de silence, ça me tombe dessus, je réfléchis, je cherche, et je ne trouve pas. Bon, c'est pénible. Bon. Mais à tel point que je ne peux plus penser qu'à ça. Bon, et ça arrive pas forcément avec ma sœur, mais avec... Bon. Imaginez que vous allez prendre un jour de retraite ou une semaine de retraite. Bien sûr, vous allez prendre ce dossier avec vous. Et peut-être que vous vous dites, ah mais là, franchement, là, je pourrais y aller, hein, je pourrais toute la semaine. Eh ben non, vous pourriez aussi bien mettre ce dossier pénible au réfrigérateur et bien fermer le réfrigérateur, c'est-à-dire vous permettre, vous donner l'espace, l'occasion de laisser reposer un peu ce dossier pour que vous puissiez de nouveau écouter. Non pas seulement ce truc pénible ou difficile, mais la parole de Dieu et la vie et les autres gens et la parole de Dieu. Et vous allez probablement découvrir qu'il y a plein d'autres choses, en dehors, évidemment, de ce dossier. Et quand, à la fin de cette journée, ou à la fin de cette semaine, vous rouvrez le frigidaire, il est tout à fait possible, parce que vous avez pu remettre des choses un peu à leur place et à leur véritable dimension, que vous découvriez, mais ce dossier qui était grand comme ça, tiens, mais il a diminué, il n'a peut-être pas disparu, ou je peux l'aborder d'une autre façon. Donc ça peut être une façon pour retrouver une certaine liberté par rapport à la chose.
Nicolas Sintobin, on parlait de méditation, de méditer un texte. Quelle différence vous faites entre une méditation auprès de la croix et une méditation peut-être même d'un poème, peut-être d'un texte littéraire? Quelle différence, en fin de compte, entre vraiment se pencher sur la Bible et la méditation peut-être plus philosophique?
Je vais l'aborder non pas par la méditation, mais par la contemplation, qui est une autre forme ignatienne de prier avec la Bible, et qui est beaucoup plus passive, qui est plus typiquement ignatienne. Méditation, il y a davantage l'intelligence qui travaille, qui analyse, et c'est bien. Mais on peut aussi, parce que vous parlez de la croix, au pied de la croix, tout simplement regarder, être là, et écouter, se laisser toucher, et voir ce qui se passe.
C'est-à-dire, on lit le texte.
On lit le texte, et puis on regarde.
On regarde la scène.
On regarde la scène, on écoute. Qu'est-ce qui se passe? Que fait Marie? Que fait Jésus? Quelle est l'expression du visage? Tiens, Jésus touche. Ben, et s'il me touchait, qu'est-ce que ça me... Voilà. Donc, vous allez entrer, comme dans une scène de théâtre, dans ce qui est présenté. Mais vous allez faire ça, non pas tout seul, mais en présence. En présence de Jésus, avec Dieu. Tandis que, quand je fais ça avec un texte philosophique, je peux aussi prier avec un texte philosophique, je peux aussi prier avec un poème. Mais si c'est simplement une analyse que je fais, c'est moi qui travaille un texte. Tandis que dans la prière biblique, comme dans toute prière, il y a un élément structurant qui est la relation. Je le fais en présence de et avec Dieu. Et ça change. C'est pas moi tout seul. C'est d'ailleurs pas moi qui fais. J'accueille. Je laisse où je collabore, je m'offre, je me propose, je laisse, je m'ouvre pour que quelque chose se passe en moi, dont, en dernier ressort, moi, je ne suis pas l'acteur.
Donc c'est vivant ?
Ça peut être extrêmement vivant, et ça peut être hyper passif et rasoir. Ça dépend, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais effectivement, notamment, bon, ça dépend des récits, du type de texte que l'on va prier. Mais quand c'est, pour ainsi dire, un texte d'action, et qu'on va entrer dans cette action, il est probable que l'on va être, dans une certaine mesure, entraîné par cette action, et que l'on va vivre des choses qui peuvent être des choses fortes. Si, par contre, je me laisse bercer, et c'est très bien, par un texte, par un certes, parce qu'il y en a beaucoup de différents, mais par un psaume qui parle du désir de Dieu et d'une tendresse, et ainsi de suite, ça peut être très, 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 très calme. Et il se peut que, pendant une demi-heure, je reste avec un mot, avec une image, qu'il n'y a pas de parole, que presque rien ne se passe, mais que je sens, c'est bien, je suis bien là. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin, non, je suis en présence de Dieu, à travers ce verset, cette image, je ne sais pas quoi, et c'est bien.
Alors, ça veut dire qu'une prière réussie, c'est une prière où on se sent bien.
Déjà, le mot
réussi, ça vous plaît pas.
Ça ne me plaît pas trop. Et il se peut que la prière soit rude, soit violente. Si elle vous conduit, à travers des expériences douloureuses, à revisiter avec Dieu, on a parlé de réconciliation, de pardon, bon...
Il y a des prières qui sont des véritables tiraillements.
Ça peut être dur. Ça peut être dur. Et on peut se battre. Et c'est bien. Parce que ça fait pas... Quand on lit les psaumes, ce qui est écrit comme cheminement, comme changement d'état d'esprit dans les psaumes, mais c'est effrayant. C'est effrayant. Mmh. Mais c'est l'expérience humaine. Et c'est bien pourquoi on prie autant avec les psaumes. Parce que tout... les sentiments, toutes les expériences humaines, les plus belles comme les plus violentes, sont exprimées. Et là, le cadeau, je dirais presque, des psaumes, c'est qu'elles nous permettent d'évoquer, de laisser évoquer, interpeller l'ensemble de notre expérience. Mmh. Parce que prier... avec la Bible, prier tout court, mais aussi prier avec la Bible, c'est pas produire des pensées pieuses. Il se peut qu'il y ait l'une ou l'autre fois des idées pieuses. Non. Mais c'est d'abord ma vie dans sa réalité, dans ses aspects tendres, mais aussi bien les aspects crus et douloureux et beaux, tout que je peux offrir, mettre en rapport avec la parole de Dieu. Mm. Tout, tout, tout.
Il n'y a pas de tabou.
Il n'y a pas de tabou. Rien de l'expérience humaine n'est indigne pour être prié.
Est-ce qu'il faut l'exprimer ou est-ce que Dieu sait tout, Dieu voit tout?
Dieu sait tout, mais moi je ne sais pas tout. Alors en l'exprimant, dans cette confiance et dans cette intimité de la relation... d'amour avec Dieu, je peux probablement exprimer, voir et accueillir des choses que tout seul et dans le silence, je ne pourrais jamais concevoir, accueillir, vivre.
Vous évoquez tous ces moments par lesquels on peut passer au cours d'une prière. Est-ce qu'il est important après de les noter ou de marquer ces différents moments qu'on a traversés ?
La prière est tout d'abord gratuite, on prie pour prier, pour être avec Dieu. Or, Ignace nous apprend, bon, il n'a pas inventé, nous montre à quel point la relecture de la prière peut être précieuse parce qu'elle peut nous apprendre plein de choses sur la façon dont la parole de Dieu, Dieu lui-même, nous invite à la vie. Et quand on prend l'habitude de relire avec une certaine régularité sa prière, avec la Bible et l'autre prière aussi, il est tout à fait probable que l'on va trouver des fils rouges, des choses qui reviennent et qui sont des indicateurs. Tiens, si tu vas plutôt dans ce sens-là, si tu focalises davantage là-dessus, la vie s'ouvre. Ou au contraire, ou là, ce que ce type d'expérience dans les psaumes, par exemple, ce qu'ils font avec vous dans la prière, ça suggère probablement qu'il faut davantage aller dans ce sens, ou au contraire, justement, l'éviter. Et la relecture permet de le faire plus en profondeur, et puis de le fixer. Mmh. Le fixer. Parce que une heure, deux heures, un jour après, en général, vous avez oublié. Et si vous ne l'écrivez pas, souvent il s'agit de petites choses. Si on attend des événements spectaculaires dans sa prière, il faudra en général attendre longtemps. Mais c'est ces petites choses que la relecture permet de relever. Et c'est dans souvent cette banalité que Dieu parle.
Merci beaucoup, frère Nicolas Zintobin. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission un peu différente de celle de d'habitude. Prier avec la Bible à l'école de Saint-Ignace de Loyola, c'est le titre de votre ouvrage publié aux éditions Jésuites. Vous y proposez d'ailleurs un accompagnement pour y lire certains textes que vous avez choisis dans la Bible. C'est une excellente et une très belle expérience à vivre pour nos auditeurs. Merci à vous, à bientôt.
Et nous, on se retrouve d'ici quelques instants dans l'écho des solutions. Alors, restez bien à l'écoute. Je vous emmène en covoiturage puisqu'on va évoquer la question de la voiture, l'éco-responsabilité des constructeurs, des usagers de la voiture. Comment aujourd'hui la voiture peut être à la fois au cœur de nos vies et respectueuse de l'environnement? C'est ce qu'on va voir. Alors, restez bien à l'écoute d'RCF et de Radio Notre-Dame. À tout de suite.
Vous écoutez RCF à Chinon sur le 103.8.
Avant même les premiers rayons du soleil, RCF ouvre son antenne à la prière. Dans la prière du matin, l'évangile du jour est commenté par des chrétiens et des chrétiennes engagés. De précieux instants de méditation et de quiétude pour bien démarrer votre journée. La prière du matin, c'est 4 rendez-vous quotidiens dès 5h50.
Tout ce qui se voit s'entend chaque lundi sur RCF et Radio Notre-Dame. Dans Surexposition, Christophe Maury vous propose une sélection d'expositions à découvrir. Peinture, sculpture, œuvres de jeunes talents ou de grands maîtres, Surexposition vous donne rendez-vous chaque lundi à 20h et quand vous le souhaitez sur rcf.fr.